Ces dernières semaines, vous ne l'aviez pas beaucoup rempli, vous l'aviez laissé au bureau, vous l'aviez même peut-être oublié, voire enterré dans le sable à la plage. Ou bien vous en aviez désactivé la fonction le temps des vacances pour ne plus y penser. Mais voilà, il faut le réactiver, il faut le ressortir de votre sac ou du tiroir de votre bureau et recommencer à y noter tous les rendez-vous et les activités qui reprennent votre agenda. Ou sur le smartphone, pour ceux qui l'ont sur le smartphone. Il faut reprendre le rythme scolaire ou professionnel, mettre en place les activités de la semaine, gérer les priorités et l'organisation de l'agenda. Comment faire? Comment bien faire? Les médias regorgent d'infos et de conseils pour réussir sa rentrée. J'ai trouvé les 10 commandements pour une rentrée zen. Conseil d'une coach professionnelle certifiée, spécialiste de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je ne savais pas que ça existait. Consultante et formatrice en gestion du temps et équilibre de vie. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire. Et elle propose les 10 commandements pour une rentrée zen. Alors je vous les lis rapidement. Des fournitures scolaires, tu te débarrasseras. Ça c'est le premier commandement. Deuxième, rendez-vous chez les médecins, tu prendras. 3. De l'administratif lié à la rentrée, tu te débarrasseras. 4. De l'avance sur les inscriptions aux activités, tu prendras. 5. Du tri dans les armoires, tu feras. 6. Du temps pour la rentrée, tu te ménageras. 7. Le point sur ton organisation, tu feras. 8. Les horaires, tu recadreras. 9. Une vraie pause plaisir, tu t'offriras. Parce qu'on sait bien quand même que la rentrée, c'est galère. 10. À oublier, tu t'obligeras. Je ne sais pas ce qu'il faut oublier, mais voilà. Il y a sans doute une part de sagesse dans ces commandements. Mais Dieu, lui, voit les choses tout autrement. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble le psaume 5. Le psaume 5 qui va nous donner quelques conseils pour bien redémarrer. C'est le titre de cette prédication. Quelques conseils pour bien redémarrer. Nous avons lu dans les psaumes tout cet été, en particulier dans ces psaumes que l'on appelle messianiques. Ce n'est pas un de ces psaumes que je vous propose de lire et de méditer ce matin. Nous allons lire ensemble ce psaume, le psaume 5. Un psaume dédié au chef de chœur, à chanter avec accompagnement d'instruments avant, on va faire seulement la lecture ce matin, un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérant, me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. Éternel, conduis-moi à toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que par leur machination, ils provoquent leur propre ruine. Et pour leurs méfaits répétés, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Le psaume que nous venons de lire, c'est la prière d'un homme, David, qui remet sa journée, j'ose dire, qui remet sa rentrée entre les mains de Dieu. Regardons ça de plus près. Manifestement, David a des choses à dire à Dieu. Tout au début, il dit « Éternel mon Dieu, ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Écoute mes paroles et entends mes soupirs. » Il en appelle à Dieu son roi, verset 3. « Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel. » Et David nous dit qu'il se lève tôt pour faire cette prière, verset 4. « Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi. » Le psaume 5, c'est une prière du matin. Celle que David adresse à Dieu au lever du jour. Donc, avant toute autre activité. Il a envie ou il a besoin de parler à Dieu. Mais il a aussi envie ou besoin d'entendre la voix de Dieu. Il dit à la fin du verset 4, « Je me présente à toi, et puis j'attends. » Et puis j'attends. Pour David, prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi écouter ce que Dieu a à lui dire. Je me présente à toi, et puis j'attends. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est aussi écouter Dieu, attendre sa parole. Dans les versets qui suivent, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11, David nous dit pourquoi il prie. Pourquoi il se lève tôt pour prier. Ce n'est pas juste une habitude, c'est aussi qu'il rencontre des difficultés. Il dit au verset 9, « J'ai des ennemis. J'ai des ennemis. » Alors il commence par rappeler, verset 5, la justice de Dieu. Il rappelle la haine que Dieu a à l'égard du mal. Et David rappelle enfin le jugement qui pèse sur ceux qui vivent d'une manière injuste. Versets 5 à 7. Et puis d'un seul coup, David se souvient qu'il n'est peut-être pas si différent de ces méchants qu'il évoque. Il dit au verset 8, « Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et en te révérant me prosterner et t'adorer dans ton saint temple. » Si David peut prier, c'est parce que Dieu lui a fait grâce de sa propre méchanceté. C'est donc avec crainte qu'il prie, non parce qu'il a peur que Dieu le punisse, mais parce qu'il mesure la bonté de Dieu à son égard. Lui aussi, David, devait subir le juste jugement de Dieu. Mais il échappe à cette condamnation parce que Dieu lui a fait grâce. Par ta grâce infinie, je peux me présenter devant toi. David n'a pas une mentalité triomphante en venant prier, mais il a conscience qu'il est un pécheur pardonné par un Dieu parfaitement saint et juste. David sait bien que sa vie n'est pas parfaitement juste devant Dieu lorsqu'il se présente à lui au lever du jour. Il compte donc sur la justice de Dieu pour le conduire dans cette nouvelle journée. Verset 9, « Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis, des difficultés. » David veut aligner sa vie sur la volonté de Dieu. David veut définir son agenda de la rentrée en fonction de l'agenda de Dieu. Puisqu'il se sait pardonné, David peut alors dénoncer les péchés des autres et demander à Dieu d'intervenir en exerçant sa justice. Verset 10, il dit, il parle de ses méchants, de ses ennemis. Dans leurs propos, tout est malice. La malice, c'est la tromperie. Et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Un tombeau qui s'ouvre, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas pur, n'est-ce pas ? Leur langue se fait enjôleuse, là aussi, trompeuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que par leur machination, ils provoquent leur propre ruine. Et pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Vous voyez, ce n'est pas parce que David est un homme parfait qu'il demande à Dieu de punir des gens qui ne le sont pas. C'est parce que ces hommes persistent dans leur méchanceté et s'en prennent à lui. Il suffit de relire l'épisode tragique de 2 Samuel chapitre 11 pour se rappeler que David a lui aussi été un menteur, un trompeur et un assassin. C'est l'histoire de la femme d'Uri le Hittite. Mais la différence entre David et ses ennemis, c'est que David se détourne du mal pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Tandis que ses ennemis, eux, s'enfoncent dans une vie rebelle à Dieu. David a accepté la grâce de Dieu, tandis que ses ennemis la rejettent. La condamnation que David appelle sur ses ennemis, la justice qu'il réclame, c'est celle que Jésus a subie à la croix plusieurs siècles après et que nous avons rappelé dans cette première partie de culte. C'est un de ses descendants, le roi promis par Dieu, qui a porté cette condamnation pour que David et nous-mêmes aujourd'hui puissions y échapper. La justice de Dieu a donc été satisfaite. Et le cri de justice de David a lui aussi été satisfait. Parce que le pardon nous est offert. Puisque quelqu'un a payé. David dit dans ce psaume, ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes. Eh bien, à la croix, cet appel à la justice de Dieu est pleinement satisfait. Ce qui fait que tout ce qui rejette la croix de Jésus et donc la grâce de Dieu, tous ceux qui répètent inlassablement leurs méfaits, comme dit David ici au verset 11, sans changer de vie, restent condamnés à subir la justice de Dieu. Et c'est ce que Ghislaine nous a rappelé tout à l'heure lorsque nous avons partagé ce pain et ce vin. Ceux parmi nous qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur et leur roi restent exposés à la condamnation de Dieu. Il est encore temps de changer de vie. Et la bonne nouvelle est pour ceux qui acceptent cette substitution, c'est-à-dire le fait que Jésus ait pris notre place pour subir la justice de Dieu. Et c'est la dernière partie de notre psaume, la troisième partie, à partir du verset 12. Mais, vous voyez, mais, par rapport à ceux qui sont rebelles, mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. pour les chrétiens, la joie devrait remplacer la crainte d'une punition divine. Par trois fois, David parle de la joie ici, dans cette fin de psaume. Que tous ceux qui se réfugient en toi soient à jamais dans l'allégresse, poussent de grands cris de joie et se réjouissent grâce à toi. Pour les chrétiens, Dieu garantit lui-même la protection. Là aussi, plusieurs fois ce mot « protection, refuge » revient dans cette fin de psaume. Tous ceux qui trouvent un refuge en toi, ils sont sous ta protection et tu les couvres de ta grâce comme d'un bouclier. David dit que le croyant est béni car Dieu le considère comme juste. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrive jamais aucune difficulté. Voyez la situation de David ici. Il appelle la justice de Dieu sur ses ennemis. Cela veut dire que la grâce de Dieu est toujours et encore disponible. Et quand nous chutons, quand nous péchons, parce qu'il nous arrive de pécher, nous pouvons nous relever et nous réfugier à nouveau derrière le bouclier de la grâce divine. Nous pouvons être pardonnés encore et encore et continuer à apprendre à vivre la vie juste que Dieu nous appelle à vivre. À la fin de ce psaume, David associe même tous les croyants. Il dit que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans la joie. Sa joie est communicative. Il veut la partager avec les autres. Et il appelle tous les croyants à vivre de cette joie. Enfin, il dit que cette joie des croyants, est une joie éternelle. Que tous ceux qui trouvent refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse. Confier sa vie à Dieu est une source de joie éternelle. C'est un pari gagnant. Dieu ne nous protège pas au gré de son humeur du jour, mais sa protection est fiable, comme un bouclier qui repousse l'arme de l'ennemi. Et lorsqu'on accepte cette grâce, on est pour toujours dans l'allégresse, c'est-à-dire parfaitement protégé. C'est une certitude. À nous de persévérer dans cette joie, surtout lorsque l'ennemi vient nous faire douter de la protection de Dieu à notre égard. Je disais en introduction de cette prédication que le psaume 5, c'est la prière d'un homme qui remet sa journée entre les mains de Dieu. À l'heure de notre rentrée de septembre, voici comment bien démarrer. Trois conseils pour bien redémarrer. Conseil numéro 1. Dans notre agenda, inscrivons en premier, chaque jour, un temps de rencontre avec Dieu. Nous n'avons peut-être pas d'ennemis qui menacent notre vie, comme c'est le cas de David. Mais tôt ou tard, cette année, nous allons rencontrer des difficultés. N'attendons pas les ennuis pour communiquer avec Dieu, avec notre Dieu, notre roi. Prenons rendez-vous avec lui chaque matin pour lui parler et pour l'écouter. Dès le matin, alors peut-être pas à l'aube parce que les jours commencent à diminuer, n'est-ce pas? Donc on va se lever de plus en plus tôt si on se lève à l'aube. Mais pourquoi pas? Dès le matin, présentons-nous devant Dieu et attendons. Attendons-nous à sa parole. Comment faire? Quelques idées tout à fait pratiques. Au réveil, que vos premiers mots soient pour Dieu. Seigneur, je t'aime. Père, merci pour la vie que tu me donnes aujourd'hui. Ou encore, Dieu, j'ai mal dormi, entends mes soupirs. Et aide-moi à faire face à cette nouvelle journée. Que nos premiers mots de la journée soient pour Dieu. Une autre idée. Le matin, que votre première activité soit d'attendre Dieu. Dès le lever du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Avant de prendre votre petit déjeuner, avant même d'allumer votre smartphone, les amis, prenez 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou une heure, selon le temps dont vous avez besoin, pour parler à Dieu et écouter sa parole. Il n'a rien de si urgent sur votre smartphone qui mérite de le faire passer avant Dieu et sa parole. La veille au soir, préparez votre Bible, préparez votre réveil, préparez votre café et le coin de votre rendez-vous matinal du lendemain avec Dieu. Mettons en priorité dans notre agenda, chaque jour, un temps particulier avec Dieu. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Dans nos activités de cette année, cherchons à mener une vie juste devant Dieu. Nous avons vu dans ce psaume que David rencontre l'opposition de ses ennemis. Et il en appelle à la justice de Dieu et n'essaye pas de se faire justice lui-même. Il a aussi conscience qu'il n'est pas finalement si différent ou meilleur que ses ennemis. Mais il demande à Dieu de le conduire. Verset 9. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis ou des soucis dans mon couple, dans ma famille, ou avec mes collègues, ou avec mon patron, ou avec mes voisins, ou j'ai besoin de ton aide pour parler de toi. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste. Voilà ce que nous sommes invités à demander à Dieu dans ce temps de rencontre matinale avec lui. Notre rendez-vous matinal avec Dieu doit nous aider à vivre une journée qui plaise à Dieu. L'école, le lycée, la fac, le bureau, l'entreprise ou encore la maison sont les lieux de notre journée où nous allons chercher à mettre en pratique la parole de Dieu et donc sa volonté pour nous. Ce n'est pas seulement des choses qui occupent les cases de notre emploi du temps. Ce sont les moyens par lesquels Dieu veut nous aider à mener une vie juste. N'imitons pas les ennemis de David dans ce psaume qui se révoltent contre Dieu et qui ne tiennent pas compte de lui dans leur agenda. Cherchons plutôt à aligner notre agenda sur celui de Dieu. Laissons-nous conduire par lui, car il est parfaitement juste. Conseil numéro 2, dans nos activités de cette année, cherchons à mener une vie juste devant Dieu. Troisième conseil, faisons de la grâce de Dieu notre joie. Ne vivons pas dans la crainte d'un châtiment de Dieu, mais avec confiance, réfugions-nous derrière le bouclier de sa grâce. Verset 8, par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison ou dans ta présence, ou dans cette journée, ou dans cette année. Dans ce temps matinal avec Dieu, Dieu vous révèle-t-il un péché? Confessez-le. Détournez-vous du mal et retrouvez la joie de vivre pour Dieu. Nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à vivre dans la peur de Dieu, mais dans la confiance en Dieu. Et David nous rappelle au verset 13 que Dieu bénit le juste. Dieu bénit ses enfants parce qu'il les aime. Vivons donc sous cette bénédiction, en cherchant à faire et en faisant ce qui plaît à Dieu. Ne nous éloignons pas de la protection que Dieu nous accorde en son Fils Jésus. Nous avons parlé, nous avons chanté tout à l'heure ce chant qui nous parle du sang de Jésus. Alors évidemment, ce n'est pas le sang, le liquide matériel en lui qui peut quelque chose, hein, mais c'est ce qu'il représente, la vie que Jésus a offert pour nous protéger de la condamnation. Vivons sous cette protection. C'est lui qui nous a acquis cette protection par sa mort à la croix pour nous. Remplissons donc nos journées et nos agendas cette semaine, cette année, de ce qui plaît au Seigneur et non de ce qui nous éloigne de sa protection. Ne nous exposons pas aux mensonges et à la tromperie comme le font les ennemis de Dieu, mais faisons de la grâce de Dieu notre joie. Conseil numéro 3. Que notre joie chrétienne soit aussi communicative, afin que ceux qui nous côtoient, jour après jour, soient touchés par cette grâce et puissent eux aussi changer de vie. Je vous invite à prier. Seigneur, tu bénis le juste, et nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas autant que tu voudrais, nous ne le sommes pas autant que nous le voudrions. Et nous voulons ce matin nous en souvenir et te demander pardon. Pardon pour tous nos manquements, nos erreurs, nos fautes, nos insuffisances, nos paresses ou nos activismes. Tu connais l'état de notre cœur à chacun en ce 1er septembre, en ce temps de rentrée. Nous voulons simplement nous présenter devant toi et nous attendre à toi. Que cette journée, que cette semaine, que cette reprise soit l'occasion pour nous de remettre les pendules à l'heure avec toi, de remettre en priorité dans notre agenda ces temps de rencontre avec toi pour que tu renouvelles nos forces et que tu nous fasses grandir dans la foi, dans la vie chrétienne cette année. Nous ne voulons pas simplement vivre sur nos acquis, nous voulons continuer à progresser et c'est seulement toi qui peux nous aider. Aide-nous à venir auprès de toi jour après jour, trouver la grâce, le secours, la force, l'amour dont nous avons besoin pour vivre devant toi une vie qui te plaise. Et que les gens qui nous entourent, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans notre milieu scolaire, cette année puissent voir cette joie qui nous anime, être interpellés et se tourner vers toi, se présenter à toi et attendre eux aussi ta parole. C'est dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus que nous te demandons cela. Amen. Amen.